La première, face au livre.
Face au livre, donc je vous le disais aujourd'hui, Dika Kolbergs, c'était le 9 octobre 1978 que Jacques Brel s'éteignait. 35 ans plus tard, donc pratiquement jour pour jour, eh bien vous y revenez à l'occasion de la parution d'un livre, Eddy.
Ce soir, dans notre face au livre, nous allons, avec notre invité Fred Hidalgo, que je vous présente dans un instant, parler de l'invité phare de cette émission. Ce sera le grand Jacques, Jacques Brel. Pour ce livre, Jacques Brel, l'aventure commence à l'aurore, que Fred Hidalgo publie à l'Archipel, qui prend comme point de départ ce jour où Brel largue les amarres dans le port d'Anvers pour ce qui devait être un tour du monde avec sa compagne de l'époque, Madly, sa fille aussi, la cadette France, et qui, à défaut de les ramener un jour en Europe, va les faire s'arrêter aux Marquises. Les Marquises où il croisera jusque dans sa dernière demeure Paul Gauguin et où il tentera de faire venir les uns et les autres, quoi qu'il ne voulait pas forcément que l'on y rompe ce silence. Il a en tout état de cause ce grand Jacques Brel réussi sa sortie à l'Olympia. A-t-il réussi sa sortie de la vie? C'est aussi de cela dont il est question dans ce livre témoignage que nous ramène Fred Hidalgo. Fred Hidalgo que vous connaissez. Si vous êtes des adeptes de revues musicales, vous n'avez pas manqué de croiser son nom. C'est un des spécialistes du genre et puis aussi par quelques livres qu'il avait déjà consacrés à d'autres grandes stars de la scène. Jacques Brel au cœur de notre entretien. Fred Hidalgo, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on se dit, Jacques Brel, oui, forcément, forcément, parce que nous approchons des anniversaires du grand départ.
Oui, et en fait, ce n'est pas du tout mon propos, puisque ce livre est consécutif à un voyage, une immersion, je dirais, aux Marquises en Polynésie, qui date de 2011. Et qui fait suite à une envie de 30 ans de partir sur les traces de l'homme, non pas de l'artiste, mais de l'homme, par curiosité, pour voir si l'homme aux Marquises, lors des dernières années de sa vie, a été conforme à l'image qu'il a toujours donnée dans ses chansons. Et quand je dis que ça n'était pas le propos par rapport à l'anniversaire, c'est que je n'avais aucune idée de préconçue d'en faire un livre, du tout. C'était vraiment plutôt le voyage d'une vie, après 30 ans de presse musicale et 10 ans de presse généraliste. Et Jacques Brel étant tout simplement mon artiste de prédilection, chose dont je ne me suis pas trop vanté tant que j'exerçais mon métier de journaliste musical, parce qu'il y avait tous les autres artistes, évidemment. Mais personnellement, je me suis toujours senti vraiment en phase avec lui pour des tas de raisons et puis bien sûr avec cette œuvre magnifique et donc libéré des bouclages de journaux en 2011 avec ma femme, on s'est dit bon, on y va, et quand on va en Polynésie, évidemment on n'y va pas pour le week-end.
Et de fait.
Donc, on y est resté plus d'un mois, une semaine exactement, et on a eu l'occasion donc de partir sur les traces de l'homme. Et là, franchement, on n'a pas été déçus.
C'est vrai que lorsque Jacques Brel tire sa révérence sur la scène de l'Olympia, quelques mois avant, vous l'écrivez d'ailleurs, six mois avant, dans une tournée en Polynésie d'ailleurs, l'orchestre qui l'accompagne, le band qui l'accompagne, ignore parfaitement que cet homme, dans cette première décennie, somme toute, de sa carrière, où il a tout touché, la gloire est là, personne ne peut se douter qu'il va partir.
Non. La tournée, c'était dans l'océan Indien à l'époque. Hein. Et effectivement, non, personne sans doute, sauf son ami Jojo, qui était son grand ami, dont il utilisera le surnom pour l'avion qu'il s'achètera aux Marquises et qui sera tellement important. Parce qu'en fait, ça remonte à un concert qu'il donne en mai 1966 à Laon, dans l'est de la France. Et tout d'un coup, il se rend compte, quand il chante Les Vieux, qu'il a chanté machinalement deux fois le même couplet. Et alors ça, sur le coup, ça l'a marqué énormément. Quand il termine le récital, il sort de scène et Jojo est là. Et il lui dit, Jojo, c'est fini, j'arrête. Et vraiment, c'est-à-dire que le jour même où il se rend compte qu'il risque de faire du Brel, c'est-à-dire de devenir, il l'a dit ensuite, non pas un homme, mais un animal qui fait les choses comme ça machinalement, et de devenir une espèce de marque, enfin de faire du Brel, quoi, en fait. Il décide d'arrêter parce que Jacques Brel, et on en parlera certainement, mais la fin de sa vie le montre abondamment, il a toujours été conforme à son œuvre, toujours authentique en tout. Et quand il écrit, c'est une des chansons fondatrices quand même chez lui, quand il écrit Grand Jacques, et qu'il dit « il est trop facile de faire semblant », lui, il ne veut pas faire semblant. Et là, il aurait fait semblant de continuer à chanter de manière sincère, authentique. Et ça, non, il s'est dit si je commence à chanter machinalement, je deviens comme une machine, je deviens quelque chose qui n'est plus moi. Donc, il faut que je passe à autre chose. Et ça, c'est donc mai 1966. Il fait ses adieux officiels à l'Olympia en octobre. Il termine le 1er novembre 1966, donc 6 mois plus tard. Et quand il décide quelque chose, il s'y tient. Et comme lorsqu'il décide de faire autre chose, il va au bout, il va toujours au fond.
Oui, parce qu'il va prendre la barre, on va y revenir, d'un bateau, et donc il doit devenir skipper, et il le fait à fond,
ouais.
Heureusement d'ailleurs, parce que le périple qu'il va entamer n'est pas banal. Lorsqu'il veut être pilote d'avion, il va le faire à fond, poussant le luxe jusqu'à obtenir des certificats complémentaires, qui ne lui étaient peut-être pas d'ailleurs immédiatement nécessaires.
Non, il aurait pu piloter un jet, et à la limite, il aurait pu aussi piloter un Airbus A747, s'il l'avait voulu, il en avait les qualifications techniques. C'est absolument incroyable.
Donc cet homme qui se tient à cela va quand même commettre quelque chose de complètement fou, dès lors qu'en fait, rachetant un navire, on y reviendra dans un instant, il va, à nos yeux en tout cas, mal le choisir, parce que voilà quelque chose d'énorme, d'hyper lourd, de bien trop grand, surtout pour un homme déjà malade, on va devoir en dire trois mots, et pour deux femmes à bord, c'est Madly et France.
Voilà, c'est un bateau de 42 tonnes, et donc, à titre de comparaison, le bateau d'Éric Tabarly, quand il a fait sa fameuse Transat, faisait quelque chose comme 18 tonnes. Et tout le monde lui a dit à ce moment-là, même la personne qui lui a installé les voiles sur l'Ascoy, puisqu'il s'appelait l'Ascoy, ce voilier, lui a dit « mais c'est beaucoup trop lourd pour toi, mais beaucoup trop lourd dans l'absolu ». Et puis il est tombé amoureux de ce voilier, mais donc c'était déjà une forme de folie. La deuxième folie, c'est effectivement, il traverse l'Atlantique tout seul, avec France Brel, sa fille, et avec Madly, sa compagne. Troisième folie, c'est traverser le Pacifique tout seul avec Madly, qui n'avait rien d'un marin expérimenté.
7500 kilomètres quand même en ligne droite pour ne pas devoir s'arrêter dans un port, relâché dans un port dépendant d'un pays qui est une dictature.
Voilà, les Galapagos, exactement. Et ça, vous connaissiez Jacques Brel, comment il était, lorsqu'il avait décidé. C'était pareil pour Franco, il n'avait jamais voulu aller en Espagne tant que Franco y était. Là, c'était une dictature militaire de l'Équateur, et donc il n'y avait pas question que je posais le pied sur un pays qui est dirigé par des militaires. Et donc, alors contrairement à ce que font tous les marins en haute mer, quand ils décident de traverser le Pacifique, lui, il file directement jusqu'aux Marquises, qui sont les terres les plus proches du continent. Ça fait 7500 km sans escale sur ce bateau, très très lourd. En plus, ils n'ont pas la chance avec eux, puisqu'ils connaissent ce que les marins au long cours appellent le pot au noir, c'est-à-dire que tout d'un coup, il n'y a plus de vent, il n'y a plus d'alizés, et le bateau stagne.
Plusieurs jours, hein.
Ah oui, oui. Et du coup, ils mettent 59 jours à faire la traversée, alors qu'en général, il faut compter quelque chose comme 40 jours. Et donc, c'est très très long quand vous n'êtes que deux à bord, et puis encore une fois, quelqu'un qui est physiquement diminué, parce que malheureusement, la maladie lui est tombée dessus entre-temps, et puis une faible femme, dynamique, énergique, etc. Mais quand même, c'est un drôle d'exploit.
Pendant ce long cours, qui le voit partir d'Anvers vers les Açores, vers les Canaries, et puis entamer la grande traversée, et puis le canal de Panama, et puis effectivement l'océan Pacifique, il va y avoir des haltes, des retours en avion, des allers-retours. C'est notamment à ce moment-là qu'il apprend que le cancer est là et que le poumon doit être enlevé.
Voilà, en fait, c'est venu assez vite, malheureusement pour lui, c'est-à-dire 3 mois après son départ d'Anvers. Il est à ce moment-là en escale aux Canaries, et il est monté tout en haut du Teide, c'est le grand volcan qui culmine à 3000 mètres, pour se reposer. Et quand il redescend, Il est pris d'une violente douleur à la poitrine, et donc il est avec sa fille et puis sa compagne. Ils sont obligés de l'allonger sur le bord de la route parce qu'il n'arrive plus à respirer, il suffoque. Sur le coup, tout le monde pense à une crise cardiaque. Et en fait, bon, il réussit à se remettre au bout d'un certain temps. Donc on redescend, il l'emmène à l'hôpital. Là, les médecins lui disent, en gros, c'est soit une pneumonie, une tuberculose, une crise cardiaque ou un cancer. Et donc, je passe les détails parce que là aussi, ça a été vraiment une drôle d'histoire puisque, en gros, il s'échappe de l'hôpital des Canaries. Il a fait téléphoner à son imprésario, Charles Marouani, en lui disant « il faut absolument que je rentre ». Et donc, on l'attend à Genève, là où se trouve son ami pilote, Jean Liardon, qui a été son moniteur sur les avions à réaction. Et donc, il est hospitalisé à Genève, et là, on lui détecte très vite une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, et on lui dit « il faut vous faire opérer ». Donc, il rentre à Bruxelles, où il se fait opérer le 16 novembre, donc grosso modo, 3 mois après être parti, enfin 4 mois. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'un mois et demi après, c'est-à-dire le 30 décembre, il est de nouveau sur son bateau.
Alors qu'il aurait dû normalement promettre de ne pas bouger avant au minimum février.
Voilà, voilà, au moins 3-4 mois de convalescence, c'était vraiment la moindre des choses. Et le 30 décembre 1975, alors qu'il était, qu'on lui a retiré, on peut dire, un poumon, le 16 novembre, il traverse l'Atlantique avec 2 femmes à son bord. Et à ce moment-là, le médecin, c'est un médecin bruxellois qui avait assisté à l'opération, puis qui le soignait, qui lui avait dit « mais il faut vraiment que tu te reposes davantage ». Et Jacques Brel lui écrit « mais pas question, il est urgent de vivre ». Et là, donc il traverse l'Atlantique, et puis ensuite, effectivement, il reviendra 6 mois après pour un contrôle médical quand même, ça ce sera au mois de juin 75. Il rentrera rapidement à Bruxelles et ce sera la dernière fois qu'il reverra les membres de sa famille.
Dont notamment effectivement son frère Pierre, qu'il revoit près de la cartonnerie familiale, vous le décrivez dans ce restaurant où ils avaient leurs habitudes. Ce qui n'en fait pas pour autant définitivement à partir de là un ermite, hein, loin de là.
Non.
On va parler des populations qu'il va découvrir, aider et aimer, mais il fait aussi venir les amis, il reste attentif. Lorsqu'il fait venir par exemple à un certain moment sur un coup de tête en se disant tiens, pourquoi ne pas recevoir Lino Ventura, pourquoi ouais. ne pas recevoir Charlet, pourquoi ne pas ouais. recevoir aussi in fine Henri Salvador ouais. Ce sont des gestes généreux, c'est la bande. Mais c'est aussi Henri Salvador, par exemple, qui vient de perdre sa femme et qui est complètement déboussolé.
Voilà, c'est exactement... c'est parce qu'il pensait faire venir Lino Ventura d'abord, et finalement, Henri Salvador vient de perdre sa femme. Il vivait, il l'a écrit lui-même par la suite, une vie à ce moment-là... il ne savait plus où il vivait, tous les soirs il changeait d'hôtel, enfin bon, ça allait très très mal, et Jacques Brel prend la décision de le faire venir avec Charles Marouani. Alors à ce moment-là, il est à Tahiti, parce qu'il est en train de revalider sa licence de pilote. Il se trouve qu'à Tahiti, il a retrouvé un ami, enfin, une connaissance, ce sont les hasards de la vie. En 1964, il participait à une émission de télévision en France qui s'appelait Le Jeu de la Chance. C'est une émission de Guy Lux. Donc Jacques Brel chantait une dizaine de chansons. Et puis en première partie, il y avait un jeu avec des candidats et qui devaient chanter chacun une chanson de Jacques Brel. Et parmi les candidats, il y avait quelqu'un qui était étudiant en médecine, qui s'appelait Paul Robert Thomas et qui chantait Les Bonbons. Il se trouve qu'avec cette chanson-là, il a remporté le concours. Et Jacques Brel le retrouve par hasard, donc en 76 à Tahiti. Il est médecin installé là-bas. Et donc, il lui demande s'il peut loger chez lui une semaine environ par mois lorsqu'il vient à Tahiti pour faire ses emplettes, pour aller en ville, comme il disait. Quand il partait d'Ivaoa, il disait « bon, je vais en ville ». En ville, c'est à 1500 km quand même. Et donc, quand il fait venir Charles Marouani et Henri Salvador, sachant que chez lui, à Ivaoa, il ne vit que dans une petite case, il n'a pas encore les moyens de recevoir les amis, il se dit « on va les recevoir chez mon ami, là ». Bon, il participait aux frais, évidemment. Et là, pour changer les idées d'Henri Salvador, il l'emmène un peu partout avec son avion, parce qu'il est déjà donc en train de revalider sa licence de pilote, mais il a déjà son avion qu'il a fait... il ne l'a pas encore officiellement acheté, mais c'est déjà le bimoteur, un Beechcraft. Et puis, il joue des tours pendables à Henri Salvador. Par exemple, un jour, il lui dit, bon, allez, on va aller à Moréa, et puis on va aller sur les toits Motu. Il dit, mais bon, j'ai quelques exercices en vol à faire. Il y a mon instructeur qui nous accompagne. Il dit, par exemple, allez, mets ton maillot de bain, parce que je vais devoir couper un moteur en vol. Donc, on imagine Henri Salvador qui avait une trouille de l'avion, en plus. Et en plus, et après, il a expliqué que c'était la première fois qu'il prenait un long courrier pour se rendre à Tahiti. Et finalement, ça a changé les idées complètement, Henri Salvador. Et ça, c'était le culte que Brel vouait à l'amitié. On a retrouvé des lettres magnifiques, notamment qu'il écrivait à Charlie Marouani. C'est des histoires, des lettres d'amour à des amis, quoi. C'est des lettres magnifiques.
Ouais, il avait l'amour de l'amitié, comme vous dites.
Oui, exactement.
Lorsqu'ils arrivent avec Lascoy en vue d'Ivaoa, donc en plein milieu des Marquises, dans cette baie des traîtres, qu'il découvre cette île où il sait évidemment qu'il peut retrouver le fantôme de Gauguin.
Oui.
Comment se passe le souhait de s'y installer ? C'est parce qu'il ne peut plus aller plus loin, ne veut plus aller plus loin ?
Alors, il y a trois raisons en fait. Alors la première, vous avez raison, c'est ça. C'est qu'après la traversée du Pacifique, il est épuisé. Le bateau était vraiment beaucoup trop lourd. Il est épuisé même plus que ça. Il est un peu dégoûté du bateau. Il a l'impression d'avoir fait le tour. Et la preuve, c'est que plus jamais il ne se servira de son bateau. Hein. Donc il jette il largue les amarres là-bas. Enfin, il jette l'ancre plutôt. Et plus jamais il ne touchera au bateau. Et il le revendra en fait un an plus tard. Et la deuxième chose, c'est que très vite, mais dans les deux, trois premiers jours, ça il le confiera à plusieurs personnes sur place, il a un éblouissement pour Ivaoa. Alors Ivaoa, c'est pas du tout l'image de la Polynésie telle qu'on l'imagine, ce sont pas les toits Motu avec les lagons, les palmiers, le sable blanc, pas du tout. Là-bas, il n'y a pas de plage de sable blanc, il y a des palmiers, mais il y a surtout des montagnes, c'est vraiment très découpé, c'est à pic, enfin, il n'y a qu'à écouter sa chanson Les Marquises, c'est exactement ça. Il y a de la brume, il pleut, la pluie est traversière qui bat de grain en grain, c'est exactement ça. Et donc, mais c'est une île magnifique, et complètement sauvage, on a l'impression de débarquer comme si c'était au temps de la création du monde. Hein, et puis par rapport à la civilisation sur place, rien n'a bougé depuis que Gauguin s'y était installé. Donc Gauguin y est mort en 1903. Et le magasin Gauguin, on l'a appelé comme ça, c'était le magasin où il allait s'approvisionner, était le même magasin où Jacques Brel allait boire sa bière tous les matins et discuter avec le patron. Et donc alors, ça, c'est l'éblouissement. Et la troisième raison, qui est sûrement aussi importante, sinon la plus importante, c'est que comme tous les marins au long cours, il se fait expédier son courrier en poste restante. Il savait qu'il irait à Ivaoa. Donc il va, le lendemain matin, à la poste d'Ivaoa, il va réclamer son courrier. Et le postier, alors il va réclamer le courrier au nom de Jacques Brel, et le postier lui dit « Oui, oui, il y a du courrier au nom de Jacques Brel. Avez-vous une pièce d'identité à me montrer ?» Et Jacques Brel, alors pas du tout prétentieux, il dit pas je suis Jacques Brel, pas du tout avec ce ton-là, mais étonné quoi. Il dit mais je suis Jacques Brel. Et le postier lui dit bien sûr, je veux bien croire que vous êtes Monsieur Brel, mais je ne vous connais pas. Et le règlement est tel que pour vous délivrer votre courrier, il me faut soit un passeport, soit une carte d'identité. Et là, alors, c'est le postier qui raconte l'histoire. Brel se tourne vers sa compagne et lui dit « Tu te rends compte, la doudou, c'est comme ça qu'il l'appelait. Ici, on ne me connaît pas. » Parce que le postier, ça n'était pas un cas isolé. Personne ne le connaissait ni comme chanteur, ni comme acteur à Ivaoa, sauf un Français qui est professeur sur place. Et donc, et lui qui fuyait les paparazzis comme la peste depuis qu'on avait appris qu'il avait été opéré d'un poumon, il avait même été annoncé comme agonisant, comme mort même, il est poursuivi par les paparazzis, il se dit là je serai tranquille, dans l'anonymat, et c'est la raison je pense qui fait qu'il s'installe.
Alors, installation d'un humaniste, parce que à partir de là, vous nous décrivez aussi son intérêt pour cette population qui ne le connaît pas. Il y a dans le cahier photo que vous reproduisez ici des photos avec la communauté des sœurs, des religieuses aussi. Oui. Il va aider au dispensaire, enfin chaque fois qu'il le peut avec son avion, amener des médicaments, transporter des malades, évacuer. Il devient Papa dans l'île.
Voilà, exactement. C'est le bon samaritain des Marquises. Alors, il reste Jacques Brel, c'est-à-dire grande gueule, jurant, etc. Les Marquisiens qu'on a rencontrés là-bas qui nous disaient, mais c'est incroyable comment Jacques Brel pouvait jurer, on était tous choqués, etc. Ils ont un langage très châtié. Donc, il restait le Brel que l'on connaît. Mais en même temps, et c'est la raison de ce livre, finalement, je n'aurais jamais écrit une biographie de Brel de plus. Il y a deux ou trois biographies de référence qui sont formidables. La raison de ce livre, c'est que tout d'un coup, on découvre, mais mille fois plus que ce qu'on imaginait. Pourtant, j'ai travaillé pendant 30 ans dans la presse musicale. On savait des petites choses de Brel aux Marquises, mais ce qu'on a découvert en restant là-bas longtemps, avec les témoignages recueillis, c'est que ça a été quelqu'un d'absolument capital pour le développement des Marquises. C'est devenu un mythe pour les gens de son vivant. C'est-à-dire que du jour où il a décidé d'acheter un avion, il a su qu'il pouvait continuer à piloter comme pilote privé. Alors lui, il avait son plaisir personnel de piloter. Il adorait ça, mais piloter pour piloter sans personne, ça lui aurait pas... Tandis que là, tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il pouvait procéder à des évacuations sanitaires, qu'il pouvait livrer le courrier toutes les semaines, alors qu'il ne recevait le courrier qu'une fois par mois, par une goélette qui passait. Et non seulement il va à Oua, mais il allait à Ouapou, c'est une île où il a été le premier à se poser, une piste extrêmement difficile. Donc là, il est non seulement Don Quichotte, mais il est Mermoz en même temps. Il procède à des ravitaillements en vivres, en médicaments. Il apporte le cinéma, il achète des projecteurs, il va chercher les films lui-même à Tahiti, qu'il se fait envoyer par Claude Lelouch ou par son impresario Charles Marouani. Il joue lui-même au projectionniste. Quand il rencontre le gouverneur, il lui dit, parce que je n'ai pas parlé du contexte de l'époque, mais il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone, il n'y a absolument rien, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de médecin à Ivaoua. Il n'y a rien. Et donc, il n'arrête pas de se battre pour qu'on envoie un médecin, pour qu'on envoie un dentiste, pour qu'on envoie un ophtalmo. Et donc, il se bat en permanence au plan sanitaire, culturel, et même les infrastructures. Il se rend compte qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de piste, qu'il n'y a pas de route. Et donc, il essaie de contribuer vraiment au développement des Marquises.
Au point, alors évidemment, on peut imaginer qu'il y a un effet de notoriété au côté duquel on ne peut pas passer, mais au point quand même, voilà, qu'il y ait une stèle commémorative qui est maintenant près de ce qu'on appellera le centre Jacques Brel, qui n'est quand même pas non plus un palace immense. Hein,
C'est un hangar, en fait.
Dans lequel on a conservé l'avion.
Qui a été restauré.
Et d'autres choses. Mais donc, il y a un véritable attachement. La piste d'atterrissage, appelons ça l'aérodrome, s'appelle toujours aérodrome Jacques Brel.
Jacques Brel, oui.
Donc il y a un vrai culte quand même ?
Un culte, non, je dirais pas ça, mais un mythe. Hein, c'est-à-dire que quand il est mort, le maire de Lille a déclaré que c'était un véritable cataclysme pour tous les habitants. Et si vous voulez, en fait, ce qu'on a ressenti là-bas, et c'est la raison de mon livre, c'est que c'est totalement unique dans l'histoire de la chanson. Jacques Brel, aux Marquises, a mis en pratique ce qu'il avait professé en chanson. C'est-à-dire qu'après les paroles et les musiques, il a tout mis en acte. Et ça, c'est vraiment unique. Souvent, même, vous avez une certaine dichotomie entre l'œuvre et l'homme qui n'est pas tout à fait à la hauteur. Bon, c'est relativement normal. Mais Jacques Brel, lui, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que là-bas, c'est plus qu'un aboutissement, puisqu'il y est mort, sa vie s'est terminée là-bas. C'est un accomplissement. Quoi. Vraiment, c'est comme s'il avait été une chrysalide avec le chanteur, l'artiste, et puis que là-bas, il s'était transformé en papillon en allant au bout de tout ce qu'il avait déclaré, chanté.
Alors, après la scène qu'il avait arrêtée à l'Olympia, quoi qu'il y ait encore cet homme de la Mancha qui le hante, il y a ce dernier album, Les Marquises, un album qui va marqué, pourquoi l'envie d'en refaire un, avec aussi des coups de gueule, hein, on se souvient là-dessus, les chansons comiques pour les flamingants chez nous, où il a martelé dur, ça a fait des titres de presse très durs ici aussi d'ailleurs, nazis pendant les guerres, catholiques entre elles, disait-il, des flamingants.
C'est dur. Ça, il expliquait même sur place au pilote qu'il recevait chez lui le soir à dîner, parce que c'était le lieu d'escale hebdomadaire, Ivaoua, qu'en fait, il n'était absolument pas question des flamands, que ça avait été très mal interprété, que c'était les flamingants, et il expliquait la différence, etc. Et en fait, les chansons, c'est tout simplement parce qu'il avait dit qu'il abandonnait le tour de chant, mais qu'en aucun cas, il n'abandonnait les chansons et qu'il continuerait à en écrire. Il avait même promis à Eddie Barclay, lorsqu'il partait pour son fameux tour du monde de 5 ans, au départ, de lui donner de quoi enregistrer un nouvel album tous les 18 mois. Bon, ça, il n'a pas pu le tenir, mais en revanche, parmi les témoignages que nous avons recueillis à Ivaoa, ça c'est formidable et que l'on ignorait totalement, c'est qu'en 78, donc après la sortie de l'album des Marquises, Jacques Brel continuait d'écrire des chansons. Plein de gens l'ont vu, entendu, il en a fait écouter. Et Charlie Marouani m'a encore confirmé qu'il y aurait eu un nouvel album un an après, un an et demi après, et peut-être d'autres ensuite. Madly disait qu'il avait environ 30 chansons nouvelles à ce moment-là.
Dont on ne connaît rien.
Ah non, dont on ne connaît rien. Nous, on a eu la chance sur place, c'est un cadeau inestimable, qu'un des anciens amis de Jacques Brel nous remette une cassette, parce que, évidemment, quand il était en Europe, il écrivait les chansons au jour le jour et il les essayait le soir même. Et puis, il les améliorait au fur et à mesure, il les testait auprès du public, et il ne les enregistrait que lorsqu'il les estimait faites. Au Marquise, évidemment, il est tout seul, il n'a aucun public, donc il s'enregistre lui-même. Il y a une photo dans le livre, on voit bien l'orgue électronique, la guitare et puis le magnétophone, et il s'enregistrait, il serait écouté, etc. Et on a récupéré comme ça Jojo et La ville s'endormait, qui sont des esquisses de chansons et qui montrent le travail énorme qu'il y avait entre l'idée initiale et puis les chefs-d'œuvre que l'on connaît.
Un dernier mot, parce qu'il en faudra en laisser d'autres à lire, pour celles et ceux qui vont vous lire, Fred Hidalgo. Dans ce livre, vous nous dites, voilà, lorsqu'il choisit l'endroit où il sera enterré, c'est dans ce cimetière où repose Paul Gauguin, il y a un immense Christ en croix, il dit, ben voilà, de l'autre côté, par rapport à Gauguin, comme ça, le Christ sera entouré de ses deux larrons.
Voilà, exactement. Oui. Ça, il l'a dit à plusieurs personnes, à son grand ami là-bas, Marc Bastard, aux sœurs, enfin, à pas mal de monde, à Madly, évidemment. Il était allé choisir l'endroit. Il avait dit aussi à son imprésario, Charlie Marouani, alors qu'il voulait que ses cendres, par testament, il avait fait un testament avant de partir sur son voilier, il voulait que ses cendres soient dispersées sur la mer. Mais arrivé aux Marquises, il a décidé de se faire enterrer là-bas. Et puis, il a dit, effectivement, à plusieurs personnes, comme ça, on sera les deux larrons d'Ivaoa, Gauguin et moi.
Mais il y reviendra très solitaire, hein, convoyé ce corps par Madly et par Charlie Marouani, c'est
voilà.
Tout.
C'est tout, et dans un tout petit avion, à même le sol, puisqu'il n'y avait pas de soute, etc. Et par son grand ami Michel Gauthier, qui était le pilote instructeur, l'un des deux pilotes instructeurs avec qui il avait revalidé ses licences de pilote.
Jacques Brel, l'aventure commence à l'aurore, c'est aux éditions L'Archipel, signé par Fred Hidalgo. Merci.
Merci à vous.